Bonjour à tous. Dans la vie, nous menons plusieurs combats, n'est-ce pas? Et c'est vrai que nous menons des combats contre les obstacles de la vie, contre la maladie, contre le mal et le péché, contre les contraintes de la vieillesse, etc. Je pense que vous avez chacun votre combat à mener en ce moment. Et nous sommes souvent dans les champs de bataille, justement, pour remporter tous ces combats-là. Et quand vous entendez le mot combat, ça vous fait penser à quoi? Dans la Bible, nous voyons beaucoup de combats des Israélites. Et parmi tous ces combats, ce matin, j'aimerais vous partager l'histoire de Gédéon, qui a aussi mené un combat contre les Madianites. L'histoire se passe pendant l'époque des juges. Je pense que je vous avais déjà prêché il y a quelques années de cela sur la première partie sur l'appel de Gédéon. Si je résume un petit peu cette prédication, voilà, un jour, il est appelé par le Seigneur pour qu'il soit le leader de son peuple, pour qu'il mène une guerre contre les Madianites. Au début, il était assez craintif, mais après avoir reçu plusieurs signes de la part de Dieu, il accepte la mission qui lui avait été donnée. Si Dieu l'avait choisi à l'époque, c'est parce qu'il était un homme humble. D'ailleurs, l'humilité est la qualité requise pour bien mener un combat. La première chose que Gédéon avait fait était de se repentir pour le péché de son peuple, mais aussi pour son péché à lui. Ensuite, il a agi pour mettre de l'ordre au sein du peuple d'Israël, c'est-à-dire, après l'appel de Dieu, en voyant de l'idolâtrie au sein du peuple, il est allé avec quelques hommes détruire les autels des idoles. Gédéon a agi tout de suite après l'écoute de la parole de Dieu. Entre parenthèses, il est vrai que les Israélites étaient dans l'épreuve sous la persécution des Madianites parce qu'ils étaient dans le péché, parce qu'ils avaient déjà commis de l'idolâtrie contre Dieu. Et devant cette épreuve, enfin, ils comprennent qu'il faut prier et même crier à Dieu. Et après cette cri de désespoir, Dieu les entend et puis envoie, ou plutôt appelle Gédéon pour chasser tous ces Madianites. Voilà donc un peu la première partie de ma prédication. Aujourd'hui, nous allons voir comment Gédéon mobilise tout son peuple pour aller combattre les Madianites. Voilà donc, Gédéon fait un appel à son peuple. Un certain nombre de personnes se rassemblent pour la bataille aux côtés de Gédéon. C'est ainsi que commence le récit d'aujourd'hui. Je vous invite à lire dans Juges, chapitre 7, verset 2. Je vous lis. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Voilà donc jusqu'ici ma lecture. Après l'appel de Gédéon, beaucoup d'Israélites avaient répondu à son appel à la guerre. Et il y eut un rassemblement pour créer une armée. Et là, Dieu dit, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Il pourrait en tirer gloire contre moi. » Ici, en hébreu, on a utilisé le mot « itpaer » qui veut dire « s'enorgueillir, se fanfaronner ». On se met en valeur. C'est ça. Cela veut dire « itpaer ». Ça vient du verbe « glorifier par ar ». Et ici, on voit qu'ils n'étaient pas aussi nombreux pour battre les Madianites qui étaient quatre fois plus qu'eux. Mais Dieu connaissait notre nature orgueilleuse. Il savait que nous étions capables d'attribuer la gloire à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu. Or, Dieu voulait surtout que cette victoire soit attribuée à lui seul, pour que le monde sache que Dieu éternel est un Dieu de victoire. Moïse aussi avait pressenti le danger des orgueilleux dans Deutéronome 8:12, avant d'entrer dans la terre promise. Je vous lis, Deutéronome 8:12, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. » Jusqu'ici, notre lecture. Moïse donne des avertissements de ne pas s'enorgueillir à son peuple. C'est vrai, la particularité de notre nature est qu'on oublie vite Dieu quand tout va bien. Quand la vie est belle, on oublie Dieu. Quand tout nous réussit, on oublie Dieu. Quand nous avons la santé, on trouve cela normal. Quand nous réussissons à notre examen, c'est la période des examens en ce moment, lorsque nous réussissons à nos examens, c'est parce que je suis intelligent, doué, ou parce que j'ai assez travaillé dur pour cela, parce qu'on a mérité. Moïse connaissait très bien notre nature. C'est pour cela qu'il nous met en garde. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. D'ailleurs, la pandémie, le coronavirus, nous a rappelé que nous ne sommes plus le maître de l'univers, que nous sommes des minuscules créatures dépendant de tellement de choses. Maintenant que nous avons repris nos activités depuis quelques jours, même s'il existe encore des contraintes du déconfinement, nous avons déjà oublié que nous ne sommes plus les maîtres de l'univers. Est-ce que tout va bien au point d'oublier Dieu ? Dans Jacques, chapitre 4, verset 6, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Juste un exemple aussi. Quel est le signe d'humilité ? Quel est pour vous plusieurs signes d'humilité qui se montrent dans nos vies, dans notre vie courante ? Moi, je dirais c'est la vie de prière. Si nous nous rendons compte que nous sommes complètement dépendants de Dieu, si nous savons que nous avons besoin de Dieu, si nous savons que nous avons besoin de Dieu dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, à ce moment-là, nous commencerons à prier à Dieu. C'est ça, un des signes d'humilité. Quelle est la conséquence des gens hautains ? Ben, ce sont des gens qui rejettent complètement Dieu, parce qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, justement. Le grand écrivain Tolstoï disait que personne n'est plus fort qu'un homme humble. L'humilité est vraiment très importante. À la fac de théologie, j'ai connu le professeur Blocher, que vous connaissez peut-être. C'est un des grands personnages parmi tous les théologiens français. C'est quelqu'un de très connu, très intelligent même. Je me rappelle qu'il connaissait très bien, en hébreu, en grec, les versets bibliques. Quand on lui posait la question, il savait exactement où était tel ou tel verset, et il connaissait aussi même les différentes nuances. Cet homme si intelligent, si profond, lui, il ne se mettait pas en valeur en cours. Au contraire, c'était quelqu'un de très humble. Même au moment du repas, quand une fourchette d'une personne tombait, c'était lui le premier à ramasser la fourchette. Mais c'est aussi lui qui se levait pour aller chercher une autre fourchette propre. Malgré sa position de prof, sa notoriété, sa connaissance incroyable, il nous a montré l'exemple à suivre. Comme le Seigneur Jésus nous a montré, il a montré l'esprit de service dans l'humilité. Et ça me rappelle un peu Matthieu 20-28 qui dit que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je reviens à notre histoire des Madianites. Voilà, les Madianites étaient fort nombreux. Il était donc parfaitement logique que les Madianites étaient fort nombreux. Il était donc parfaitement logique de rassembler une grande armée pour aller les combattre. Le Seigneur n'était pas de cet avis. Le Seigneur demande, au contraire, à Gédéon, de s'adresser au peuple ainsi que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. On aurait pu penser qu'un petit nombre seulement se retirerait, mais non. Quelle surprise de voir que c'est environ les deux tiers, 22 000 personnes, ont décidé de rebrousser le chemin. D'ailleurs, pourquoi sont-ils partis ? C'est une question qu'on pourrait se poser. Peut-être parce qu'ils viennent de se marier, parce que parmi eux, il y avait des gens qui avaient besoin d'être présents dans leur famille, à cause de leur femme, à cause de leurs enfants à nourrir, ou peut-être parce qu'ils avaient des parents âgés qu'ils doivent s'occuper, ou peut-être parce qu'ils ont beaucoup de travail, j'en sais rien, ou tout simplement parce qu'ils avaient peur, peur de cette grande armée madianite. Si c'était le cas, il était nécessaire qu'ils partent, car ils auraient pu décourager les autres avec leur crainte, avec leur esprit défaitiste. Est-ce que les hommes qui ont resté étaient sans crainte? Je ne crois pas. Ils savaient qu'ils affronteraient un ennemi plus puissant qu'eux et que ce serait un combat mortel. La seule différence entre eux et ceux qui sont partis, c'est qu'ils avaient décidé de surmonter leurs craintes afin de pouvoir accomplir leur mission. Ils n'ont pas laissé la peur les dominer. Ils avaient confiance en Gédéon, qui avait été appelé à être leur libérateur d'Israël. Ces hommes étaient prêts à le suivre au combat, car ils désiraient voir l'Éternel à l'œuvre. Qu'en est-il de nous? Laissons-nous la peur nous contrôler? Ou est-ce que ce sont nous qui dominons sur notre crainte, afin de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu? Les hommes qui sont retournés chez eux ont manqué quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire ils ont manqué de voir l'Éternel à l'œuvre. Dans Proverbes chapitre 29, verset 25, il est écrit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Amen. Je vous invite maintenant à voir verset 4. L'Éternel dit à Gédéon « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Voilà, verset 4. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Gédéon à ce moment-là, quand Dieu dit qu'il va trier encore parmi les 10 000 personnes qui sont restées. Et là, si j'étais à sa place, j'aurais pas compris du tout. Or, on voit que Gédéon obéit sans broncher. Gédéon suit fidèlement les instructions du Seigneur. Il demande aux hommes de descendre près d'un courant d'eau et de boire de l'eau. Et parmi les 10 000 personnes, 9 700 hommes s'agenouillent pour boire avec la tête penchée vers l'eau. Et cette position les rend très vulnérables, c'est vrai, à l'ennemi, car elle les empêche de voir en arrière. Ils étaient préoccupés que par leur soif. Ils n'étaient pas bien préparés pour une éventuelle attaque de l'ennemi. Or, les 300 autres s'accroupissent et puisent de l'eau avec une main et l'amènent à la bouche pour la laper comme un chien. Ainsi, ils pouvaient quand même rester aux aguets et aussi voir si l'ennemi s'approchait. Ce sont ces 300 hommes que Dieu avait choisis et que Gédéon, justement, les prend pour aller combattre contre les Madianites. Je pense que leur courage et leur vigilance ont joué un rôle très important. La question que je me pose, c'est ou plutôt je nous pose, c'est « Sommes-nous vigilants comme ces 300 hommes ?» L'apôtre Pierre nous exhorte en disant « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est vrai, le diable ne chôme pas, il travaille toujours. Il veut nous faire trébucher. Il y a tellement de distractions autour de nous qu'il peut peut-être facile de se laisser aller, s'abaisser un peu nos vigilances, nos gardes. Mais justement, il ne faut pas faire cela. Mais il faut qu'on soit comme ces 300 hommes qui ont été vigilants. Que nous puissions vraiment fixer nos regards vers le Seigneur qui nous donne la victoire sur toutes les puissances du mal. Pour Gédéon, et pour l'armée d'Israël, cette étape était comme un test. Il est dit dans Psaume 66, verset 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Voilà, donc il faut passer tous ces tests-là pour pouvoir combattre notre ennemi. Il faut qu'on soit vraiment des vrais soldats qui a passé à des épreuves pour combattre l'ennemi. Pour cela, avant, bien sûr, il nous faut s'entraîner pour bien combattre. Je reviens à l'histoire des Madianites. Quand Gédéon envoie les espions, ils apprennent que Dieu avait montré des signes à travers le rêve d'un ennemi que Gédéon allait justement connaître la victoire. Après avoir su cette histoire, ils ont été fortifiés par le Seigneur et Gédéon dirige les 300 hommes vers le lieu du combat. La stratégie était très simple. C'est-à-dire, ils allaient encercler le camp des ennemis pendant la nuit. Ensuite, pendant qu'il faisait encore noir, Gédéon allait montrer... La stratégie était de sonner de la trompette, briser des vases dans lesquels se trouvent des flambeaux et crier pour l'Éternel et que Gédéon, justement, allait voir Dieu œuvrer pour eux. N'importe quel fin stratège de guerre de notre époque dirait que cette stratégie était complètement stupide et que l'armée de Gédéon était, ou plutôt avait certainement des tendances suicidaires. Néanmoins, le résultat était tout à fait surprenant, puisqu'il y a eu une confusion de la part des camps de l'ennemi, et il y a eu une défaite totale dans les camps de l'ennemi, ils se sont entretués. Voilà donc notre histoire en conclusion. Pourquoi Dieu n'a voulu utiliser que 300 hommes pour ce combat, qui était un combat impossible à l'œil humain. C'est vrai, à la pensée humaine, c'est impossible qu'un homme batte les 450 personnes. Si on calcule selon la proportionnalité, c'est comme si un homme se battait contre les 450 personnes. Or, avec Dieu, tout était possible. Tout est possible, bien sûr. Dans 1 Corinthiens 1, il est dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Comme je vous avais dit, oui, nous sommes des faibles, c'est vrai. Mais si Dieu nous utilise, nous pouvons devenir forts. Peut-être nous sommes que des 300 personnes, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et surtout dans cette situation de détresse, il est normal pour nous de prier, car je vous avais dit que c'était un signe d'humilité. Gédéon et son peuple devaient faire confiance à un Dieu invisible, ce qui est loin d'être facile, mais imagine à quel point ils ont dû être étonnés de cette étrange victoire. C'est parce qu'ils avaient fait confiance à Dieu, et c'est parce qu'ils lui ont fait confiance qu'ils ont pu obtenir ce courage. Ils avaient aussi cet esprit de vigilance durant leur combat. Quand ils ont obéi aussi à la stratégie de Dieu, ils ont connu la victoire. Soyons aussi à l'écoute du Seigneur pour connaître les bonnes stratégies et pour mettre en pratique dans l'obéissance. Sachons vraiment que Dieu est avec nous. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que ce Gédéon, qui était un grand homme, dans le chapitre 8, il est mentionné que Gédéon n'est pas resté dans la voie que Dieu avait tracée pour lui. On peut, après une grande victoire, connaître aussi une défaite. Ne soyons pas comme ça. Fixons toujours nos regards vers le Seigneur pour ne pas broncher, pour ne pas reculer, mais avancer dans la foi, avancer pour connaître la maturité spirituelle, avancer pour que Dieu nous fasse connaître notre chemin à marcher, pour qu'il nous éclaire notre sentier. Marchons ensemble avec le Seigneur, dans la prière, dans la confiance, avec le courage en étant vigilants pour que Dieu puisse agir, pour que nous puissions aussi connaître des grandes victoires. Car oui, avec Dieu, tout est possible. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.